écoutez la web radio du Off en direct du Novotel Avignon Centre.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose Radio. La web radio du Off.
Bonjour, nous sommes toujours en direct des salons du Novotel Centre sur la web radio du festival Osmose Web Radio. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux très belles jeunes femmes. Lucie Bonnefoy-Cudras, je l'ai bien prononcé, et à vos côtés, Romane Journeau. Bonjour mesdemoiselles.
Bonjour.
Et vous venez pour un premier Avignon, donc on vous salue d'autant plus. Et vous nous présentez une pièce qui se joue tous les jours, 10 rue de l'Observance, jusqu'au 30 juillet, avec une relâche les lundis. Vous jouez à 19h et vous jouez un spectacle qui est connu dans le monde entier, sauf que vous allez nous en parler. Il s'agit de Roméo et Juliette, d'après William Shakespeare. On est bien d'accord. Et vous êtes une compagnie qui nous vient de Montpellier.
Exactement.
Voilà, et oups là, et voilà, et vous vous appelez la compagnie La Mauvaise Herbe.
C'est ça.
C'est joliment nommé.
Et ben oui, joliment nommé, et puis il y a un petit sens aussi derrière tout ça, Lucie, si tu veux nous le dire.
Ben, le petit sens, c'est en fait, on s'est créé pendant le Covid, et on a dû remonter sur le spectacle 4 ou 5 fois, et nos projets 4 ou 5 fois se sont écroulés. Et donc du coup, à force de les remonter, on s'est dit, tiens, La Mauvaise Herbe ne crève pas comme ça.
Il nous fallait ce petit mantra.
Alors du coup, on a décidé de s'appeler La Mauvaise Herbe.
Bah, c'est très joli, c'est très joli. Alors vous êtes un certain nombre de comédiens sur scène et tous très jeunes.
Exactement.
Le plus âgé, à quel âge, vous m'avez dit ?
26 ans.
Ah oui, oui. Donc effectivement, c'est une toute jeune compagnie et avec le feu sacré, tous comédiens, bien entendu.
Oui, tous comédiens et comédiennes de formation.
Oui.
Et on a dû apprendre sur le tas les autres métiers qui entourent les besoins d'une création théâtrale.
Dont la mise en scène aussi.
La mise en scène, l'administration, la communication, oui. La diffusion, la production.
Et alors ça, c'est les moins rigolos du métier quand même.
Exactement.
Parce que comédien, on préfère la scène à tout ce qui est travail de paperasse.
Ah oui, là on a fait le travail de paperasse, on a fait le travail de plateau, on a tout fait nous-mêmes finalement, on est une petite compagnie, donc on n'avait pas vraiment le choix si on voulait faire Avignon de se mettre à la tâche, quoi.
Oui, mais c'est bien, hein, une mauvaise herbe, c'est ce qui résiste. Donc, à mon avis,
oui,
vous allez aller loin.
Oui, un peu de partout. Exactement. Aussi. Ça grossit un peu dans tous les sens. Et comme ça, on a appris plein d'autres choses aussi. On a appris sur le tas, quoi.
C'est ça
qui est bien. Ça va vous donner vraiment du poids et de la force et de la vigueur pour d'autres festivals à Avignon l'année prochaine. En tous les cas, on vous souhaite surtout que les programmateurs soient présents dans la salle et que vous puissiez faire tourner ce Roméo et Juliette. On va d'ailleurs quand même parler de Roméo et Juliette parce que c'est l'idée quand même.
Alors notre Roméo et Juliette est un peu particulier puisque on a le début qui est shakespearien, puis il y a un événement au milieu et qui fait basculer la pièce dans un théâtre tout à fait contemporain, donc dans une création.
C'est pour ça que la pièce s'appelle Roméo et Juliette
ou l'énergie du désespoir. C'est vrai, parce qu'il y a un sous-titre que je n'ai pas cité, merci Romane de le dire, c'est Roméo et Juliette, l'énergie du désespoir. Bon, alors quand même, vous êtes aidé du texte de William Shakespeare.
C'est ça.
On garde quand même l'intrigue, les Capulet, les Montaigu, Roméo, Juliette, l'amour, la vengeance.
Oui, je pense qu'en fait, pour parler de la pièce, il faudrait parler du contexte de création.
C'est oui, ça. Ben voilà, parlez-en, parce que comme c'est votre premier Avignon, que vous êtes une toute jeune compagnie, que moi, j'adore recevoir des tout jeunes comédiens, ben ça me plaît, allez-y, c'est le moment.
Alors le contexte de création est aussi particulier que le contexte de création de la compagnie en elle-même, puisque
c'est lié.
On a été diplômés de notre école en 2020.
D'accord, là-dessus, le Covid,
une année excellente pour la culture.
Voilà, exactement. Après avoir travaillé à côté des cours pour pouvoir payer notre école, on nous dit, tiens, ton rêve, il n'existe plus, en fait.
C'est terrible, hein.
C'est terrible. Et la désillusion derrière, faut s'accrocher, quoi.
C'est terrible, et en même temps, on se dit qu'il n'y a pas que nous qui avons ressenti des trucs comme ça.
Exactement.
Et c'est pour ça que ça a été important pour nous de monter... ce spectacle coûte que coûte, avec cette énergie du désespoir et, comme tu dis, le show must go on, quoi.
C'est ça, le show must go on. Et puis, on a voulu ne jamais s'arrêter, en fait, de créer. On a répété pendant presque un an dans des parkings souterrains parce qu'on avait des galères de salles de répète.
J'espère que les auditeurs entendent quand même. On a toujours dit que comédien, c'était un métier. Et des fois, il faut l'exercer dans des endroits pas faciles, dans des conditions précarité. Et quand on aime ce métier, ben, bravo.
Exactement. Bah, quand on aime son métier, en fait, on en fait plusieurs aussi.
On en fait plusieurs. Donc oui, c'est comme ça qu'on s'est formé. Au reste, on a transformé des librairies en théâtre. Les premiers temps de La Mauvaise Herbe et de Roméo et Juliette ont été très très compliqués. Donc en fait, on parle des sentiments de tous ces personnages qui sont actualisés parce qu'on n'aime plus de la même façon à leur époque, enfin à l'époque où ça a été écrit, que maintenant. Un Roméo, c'est plus la même chose. D'ailleurs, nous, notre compagnie est quasiment exclusivement composée de femmes, mis à part le technicien et le musicien. Sur le plateau, il n'y a que des femmes. Donc Roméo, ou même pas que des femmes, des minorités de genre. Donc Roméo est interprété par une personne non binaire, mais c'est pas un sujet. Pour nous, c'est pas un sujet. Pour nous, c'est normal d'accepter de travailler avec tous les genres,
bien sûr.
Tout le monde.
Et l'actualisation passe à travers tout ça, en fait, ne pas parler des sujets qui pourraient paraître sensibles et juste les normaliser. Et notre Roméo et Juliette ou l'énergie des espoirs parle du coup la complexité de continuer à jouer des spectacles et à continuer de créer, mais aussi de la difficulté, je sais pas si on peut dire difficulté, mais du quotidien de tout le monde à vouloir continuer d'exister et ne pas forcément besoin de parler de sa condition pour subsister.
D'accord,
c'est ça. D'accord. Exactement.
Et, allez-y.
On a vraiment tous les personnages, parce que généralement, quand on a des personnages un peu en faiblesse, on a tendance à être assez empathique avec. Mais nous, non. Nous, on n'est pas du tout empathique. On est méchante.
En fait, on s'est rendu compte que l'empathie, c'était quelque chose qu'on nous avait plutôt inculqué et appris. Et qui était peut-être nécessairement... Excuse-moi, c'est pas ça que tu voulais dire ?
Non.
Ou appris, pas forcément, hein, parce que l'empathie, c'est aussi quelque chose qu'on développe au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure de la gradation de la vie. Hein,
c'est ça, pour continuer en fait à parler de... Je disais, on est méchante dans le sens presque théâtre de la cruauté, en fait, à la Artaud.
Mais alors vous êtes même... un peu déchiré parce que Artaud, oui, d'accord. Mais
Artaud était fou.
On l'est un peu moins, quand même.
On l'est moins, c'est évident.
Mais en fait, il y a tous nos personnages qu'on tord et qu'on distord et qu'on retord, qui n'ont pas personne n'a la vérité absolue. Il n'y a pas de gentil, en fait.
Voilà, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant.
Quand on sort du spectacle, on les déteste tous un peu, mais on les adore en même temps.
Mais bien sûr.
Hein, et dans ce spectacle, donc,
on est en plein dans le méchant loup du petit chaperon rouge. Hein. On adore ce personnage, le grand méchant loup, quand
c'est
même.
Ça,
voilà, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est pour donner une petite.
Et puis, les méchants ont été définis par la version des gentils aussi. Et finalement, trouver un gentil et un méchant.
C'est binaire, ça sert à rien.
Oui, c'est ce que vous avez d'ailleurs mis dans votre dossier que j'ai lu. Alors moi, les dossiers de presse, j'ai tendance à les lire un petit peu comme ça en diagonale parce que je préfère donner la parole. Vous insistez bien sur le côté, il n'y a pas de manichéisme. On ne définit pas les bons comme étant bons, les méchants comme étant les méchants. Moi, la question qui me vient quand même spontanément à l'esprit, donc vous utilisez... Pardon, William. On n'utilise pas vraiment William, mais c'était un vrai choix, ce Roméo et Juliette ?
À la toute base, complètement. Non. Si, ton Roméo et Juliette, à la toute base, en 2019, c'était ton choix.
Alors non, à la base, en fait, je voulais monter l'intégrale de Roméo,
Et Juliette.
Je voulais monter...
Dans le texte, enfin, en respectant le texte de Shakespeare.
Et donc, avec un Roméo, une Juliette... Et le cœur, en fait, qui faisait toutes les parties...
Comme dans le texte.
C'est ça. Et le cœur, en fait, prenait tous les personnages secondaires qui allaient les emmener vers la fatalité, finalement.
Oui.
Donc...
Excusez-moi, mais dans la pièce de Shakespeare, le cœur, il annonce déjà le dénouement. On y va à rebours, quand même.
C'est ça. Exactement. C'est ça. Et en fait, on devait le monter, du coup, à 3 acteurs. Sauf que
il y a eu beaucoup d'adversités.
Il y a eu des adversités pendant le premier confinement. Le premier Roméo a fait un burn-out et la Juliette, elle est partie avec le régisseur pour plein de raisons qui leur appartiennent et qui sont très valables.
Ça fait une succession effectivement.
C'était à 2 mois du premier rendu du spectacle. Donc j'avais travaillé déjà presque un an dessus. Je me suis dit
pour intégralement la copie. Presque intégralement la copie, enfin réarranger Roméo et Juliette.
Qu'est-ce qu'on fait ? Donc du coup, il y a une équipe qui s'est proposée, il y a un Roméo qui s'est proposé, une Roméo du coup, et une Juliette, et je les ai vues à côté, et j'avais plus le choix vraiment de leur dire oui ou non, mais je les ai vues à côté, j'ai fait, mais vous allez pas du tout ensemble, vous faites pas du tout un beau couple.
Ça ne marchait pas. Et tout le spectacle que tu avais créé ne marchait pas avec d'autres acteurs
que ceux de l'émission. Parce que c'était de la danse, il y avait quelque chose de très sensuel, de corps à corps, et là...
Vos décisions, vous les prenez collégialement comme ça? Parce que vous donnez aussi votre avis.
Eh bien, à ce moment-là, en fait, Lucie était toute seule dans ce projet. C'est pour ça que quand elle a perdu son Roméo, sa Juliette et son régisseur, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés et qu'on s'est dit « Ouh là, c'est très drôle ce qui t'arrive, c'est très triste. Mais si tu regardes avec un peu de recul, c'est très drôle ce qui t'arrive. Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas remonter ton Juliette, Roméo et Juliette comme ça? Ou est-ce que tu vas utiliser tout ce qui vient de t'arriver pour le mettre un peu au goût du jour et finalement plus nécessairement parler du Roméo et Juliette classique que tu comptais faire au tout début, mais est-ce qu'on pourrait pas créer un Roméo et Juliette différent, avec l'énergie du désespoir dedans?
Oui, c'est ça.
Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait être intéressant? Et c'est un peu à ce moment-là que ce projet est né et que la mauvaise herbe a commencé un peu à exister.
La mauvaise herbe a commencé un peu à exister à ce moment-là, effectivement. Mais en fait, entre-temps, donc il y a eu... On remonte le projet en 2 mois. Et là, deuxième confinement, la veille de la première.
Voilà, ce projet, c'est pour ça qu'on a dû forcer quand même pour qu'il existe.
Mais vous le portez bien, hein, quand même, hein, avec l'énergie du désespoir, vraiment.
Ah ben, il est là, mais des fois c'est épuisant, mais des fois c'est merveilleux quand on dit, mon Dieu, on a répété pendant un an dans un parking souterrain, et là, on se retrouve au festival. On trouve ça incroyable.
Ah oui,
on fait des demi-jauges, mais c'est déjà génial pour nous, en fait. Et voilà, donc en fait, maintenant, on réadapte la pièce qui grandit en même temps que nous. C'est vraiment c'est presque un manifeste sur le théâtre mélangé à un journal intime.
Je pense que cette pièce, elle représente beaucoup ce
J'espère qu'on voit ma tête, là, que je suis...
C'est l'objectif de ce spectacle, finalement. C'est qu'après tout ce qu'on a vécu, on a eu envie de parler de notre expérience en même temps que créer ce spectacle. Et bon, on veut aussi un peu expliquer que c'était pas facile de se prendre autant de choses dans les pattes.
Mais sans se prendre au sérieux, toujours.
Mais voilà, avec beaucoup d'autodérision, ouais. Parce que évidemment, on n'était pas toutes blanches non plus dans ces affaires. Personne ne l'est, jamais. Tout le monde a nos torts, nos travers sont sûrement sortis à des moments où on aurait préféré ne pas en avoir. Mais
tant mieux, c'est ce qui vous permet d'avancer, c'est ce qui vous permet de porter cette pièce. Vous la portez quand même, vous la portez à bout de bras, vous l'avez voulu. Vous la jouez, vous l'amenez à Avignon... Chapeau les filles,
merci.
Bravo. Et alors juste une petite question, je reviens au cœur du texte originel de William Shakespeare. Dans votre pièce, il apparaît différemment, c'est ça?
C'est moi qui le joue, le cœur. Le cœur maintenant...
Ah oui, il y est bien, le cœur y est.
Il a pris une place beaucoup plus importante que dans la version originale, c'est
exactement
certain.
D'accord.
Parce que maintenant le cœur c'est celui... Qui va aller taper là où ça fait mal, dans les égos. Voilà. C'est celui qui va pousser en fait tout le monde à mourir. Donc soit se suicider, soit aller dans les
On a le choix. On a le choix.
Bien sûr.
On peut choisir
l'interprétation.
La façon, oui, ou la façon dont on va mourir.
Non.
Ou on reste fidèle quand même.
Non,
je comprends ce que vous voulez dire. Hein. C'est pour en direction des auditeurs, ça.
C'est-à-dire.
Non, est-ce que il choisit la mort, de toute façon.
Le cœur.
Oui.
Ah, le cœur, c'est la mort.
Oui.
En fait, c'est lui. Donc,
il les entraîne
vers la mort. Mais il y a des moments où les personnages lui résistent un peu, lui parlent mal, le rabaissent, le.
Oui, parce que bon, on peut lutter quand même.
Évidemment.
On peut lutter avec l'énergie du désespoir.
Le cœur est vachement.
Il est rabaissé en permanence.
Le cœur, c'est un personnage hyper intéressant parce qu'il représente beaucoup de choses. C'est un peu des allégories de beaucoup de choses également. Donc c'est pour ça qu'il est riche et intéressant, parce que il est interprété.
Il est un peu ce.
Interprétation. Ah, j'ai oublié mon mot.
Il est un peu ce pote qui va dire: non mais ça va, on va en soirée, arrête. Non mais ça va, mais tu veux pas boire ce verre? Shot.
C'est la tentation. Qui peut emmener vers les excès.
Qui va te mettre en
danger. C'est le petit démon sur l'épaule.
Voilà, c'est le démon sur l'épaule, et en fait.
Qui se fait croire, qui se fait passer pour l'ange.
Quand on va le grandir, il va dire bah non, c'est pas. Et en fait, c'est un jeu très clownesque.
Oui.
Alors que tout le monde est très concret autour.
Bah, c'est une tragédie à la base.
Donc il y a Roméo qui est dans son rôle de tragédie. Et après, le reste, je peux.
Mais en fait, vous abordez tous les genres, là, hein, quand même, un petit peu. Parce que le clown, le genre clown, quand vous dites un peu clownesque, c'est pas le rôle le plus facile à jouer. Non, mais on va rester. On a dit qu'il y avait quand même des petites choses particulières dans cette pièce qu'on ne peut pas dévoiler. Par contre, on vous conseille. Vous savez qu'on arrive au terme de l'interview.
C'est là,
qu'on
parle, c'est on parle beaucoup.
Non, mais c'est le but quand même. C'est
on a
le
de la
but.
Salive à vous.
Non, c'est le but. On va quand même rappeler que vous êtes une toute jeune compagnie qui nous arrive de Montpellier. Vous vous appelez
La Mauvaise Herbe.
La Mauvaise Herbe. Vous jouez au théâtre de l'Observance, qui est. Vous prendre la rue de la République et puis tourner à gauche, c'est ça? Quelque
c'est
part
ça,
par
exactement.
Là, voilà, c'est ça. Théâtre, je crois que je les connais tous, mais je peux me tromper aussi. Donc, théâtre de l'Observance, sur votre gauche, en prenant la rue de la République. Vous y allez donc tous les soirs à 19h, sauf le lundi.
Exactement.
Et vous êtes là jusqu'au 30 juillet pour Roméo et Juliette, l'énergie du désespoir. On est le 20 juillet, vous êtes là depuis le 7, c'est fatigant Avignon. Hein.
Oui, on tient. On en parle. Show must go on, hein. De toute façon, ça fait 300 qu'on tient comme ça.
Et oui, il va falloir encore tenir un petit peu, parce que si, on a quand même envie de vous retrouver l'année prochaine. On a surtout envie que cette pièce, elle soit portée en France, en dehors de la France. C'est toujours intéressant d'avoir une création, d'avoir des jeunes comédiens qui en veulent, comme vous, des jeunes comédiennes en l'occurrence. Alors on va peut-être parler quand même un petit mot de votre équipe, parce qu'à mes côtés, donc je répète que j'ai Lucie Bonnefoy-Cudraz et Romane Journeau, mais je vois aussi qu'avec vous sont Camille, allez-y, c'est pour vous là.
Bah, Camille Brock, Mathilde Guy, Geoffrey Briand et Tom Briand, qui ne sont pas frères.
Voilà,
mais
ils ont le même nom,
mais c'est pas la même famille.
Mais on les salue quand même.
On les salue très fort. Parce qu'on vit, avec presque tous dans notre petit appart de 40 mètres carrés.
Ah ouais.
Et oui,
c'est la communauté.
C'est dur, hein, d'être
comédien
à Avignon.
Je pense que si c'était